qui accélère, Jordan Doudou qui termine, Jordan Doudou est champion du monde.
Pas ça Zinedine, oh non pas ça.
Regardez, regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Saga Africa, ambiance de la
France. Has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter ou Instagram Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle sur le développement durable. C'est évidemment un sujet particulièrement crucial pour notre planète et on le voit sans cesse pour le monde sportif. Nous avons déjà présenté les enjeux pour les organisateurs d'événements et notamment Paris 2024, les infrastructures, les sports nautiques et les stations de ski. Quelques semaines après l'adoption de la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire, nous allons voir maintenant comment fabricants et distributeurs de matériel, d'articles de sport appréhendent la question. Nous allons le faire aujourd'hui avec deux invités investis sur le sujet. Avec nous en ligne, Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui représente 500 marques et 1400 entreprises. Bonjour Virgile.
Bonjour Karine.
Et j'ai le plaisir de recevoir Sophie Ferringer, fondatrice de Lincoln Sport, marketplace pour acheteurs et vendeurs d'équipements d'occasion. Bonjour Sophie.
Bonjour Karine.
Merci à Frédéric Hamelin pour la chronique qu'il fera en cours d'émission. Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Et nous allons commencer avec toi, Virgile. Est-ce que tu peux nous présenter l'Union Sport et Cycle ?
Alors, très rapidement, l'Union Sport et Cycle, comme son nom pourrait l'indiquer, ce n'est pas un club de cyclisme, mais c'est bel et bien une organisation patronale, un syndicat professionnel qui représente tout un secteur, le secteur marchand du sport. Et nous sommes ce qu'on appelle en France un corps intermédiaire. On représente et on défend les intérêts de nos entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics et des administrations. Pour faire simple et caricaturer, Karine, on est un petit peu le MEDEF du sport, en quelque sorte.
D'accord. Et vous avez été créé il y a quelques années en fusionnant un certain nombre d'organisations, hein, c'est ça ?
Alors exactement, c'est important de le préciser parce que c'est quelque chose d'assez original dans l'univers. Ce sont quatre syndicats professionnels qui ont décidé de se dissoudre pour recréer un nouveau syndicat beaucoup plus large puisque celui-ci, l'Union Sport et Cycle, incarne toute la chaîne de valeur du commerce du sport. Depuis les sociétés qui fabriquent des équipements sportifs, hein, des lieux de pratique, les marques, hein, comme tu l'as dit, plus de 500 marques au sein de l'Union Sport et Cycle, toute la distribution, on a 3000 points de vente représentés, tout l'univers du cycle et de la mobilité active, et enfin, un collège important maintenant, ce sont les prestataires de loisirs marchands, les salles de fitness, les clubs de foot à 5, les murs d'escalade, etc. Et vous comprenez aisément que cette future loi sur l'anti-gaspillage et pour une économie circulaire va impacter beaucoup, beaucoup d'entreprises.
Donc on y vient à cette loi, comme tu es le premier à intervenir dessus, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et sa philosophie, et notamment pour le monde du sport. Et après, on verra comment on l'applique, mais déjà, qu'est-ce qu'elle demande, cette loi ?
Alors, en fait, c'est une loi donc, qui a été votée récemment, hein, par le Parlement, tu le disais,
en janvier.
Et je pense que tous les acteurs, aujourd'hui, ont encore du mal à mesurer à quel point elle va modifier profondément le paysage. Le paysage des entreprises de l'industrie et du commerce, mais pas que, je pense d'ailleurs que tous les acteurs du sport vont être impactés par cette loi. Alors c'est une loi qui vise, dans sa philosophie, à mieux gérer, on va dire, la productivité et la production, en fait. Et puis le deuxième vœu, c'est d'aller plutôt vers une éco-conception des produits, ou en tout cas s'intéresser à la fin de vie des produits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la production, il y a aussi qu'est-ce qui se passe après, une fois que le produit est usé. Pour faire rapide, dans cette loi, trois grands chapitres. Un chapitre qui concerne les obligations d'information du consommateur.
Donc ça, c'est de l'affichage, c'est ça ?
Alors, pas que, il y a aussi mais effectivement, hein, c'est beaucoup ça, mais il y a aussi l'extension de garantie légale de conformité, il y a des sujets de ce type-là. Ensuite, il y a la lutte contre le gaspillage, notamment avec la reprise en magasin des produits, et puis évidemment, la création d'une filière de responsabilité élargie du producteur pour les articles de sport, une REP, donc responsabilité élargie du producteur, qui peut conduire à la création d'un éco-organisme pour les articles de sport, comme ça existe, il y a une vingtaine d'éco-organismes en France, pour les pneus, pour les batteries, pour les néons, pour les déchets plastiques, et donc on aurait le même type d'entité, d'organisation pour les articles de sport.
Ce qui n'est pas tout simple, puisqu'il y a des produits dont on voit, comme par exemple les vélos pour enfants, est-ce que c'est des jouets, est-ce que c'est du sport, quoi. Je prends ces exemples-là, mais il doit y en avoir plein d'autres.
Alors, c'est à la fois un bon exemple, Karine, et à la fois un mauvais exemple.
D'accord.
Un bon exemple parce qu'effectivement, ça traduit l'hétérogénéité de notre marché. Entre une table de ping-pong et une balle de ping-pong et une table de ping-pong, vous voyez bien qu'il y a quand même quelques petites différences. Et en même temps, c'est un bon exemple puisque dans le texte de la loi, il y a aussi la création d'une filière de responsabilité élargie du producteur pour les jouets.
Oui,
donc,
justement.
Donc,
alors,
finalement,
qui
votre vélo...
Voilà, on le met où, alors, le vélo?
Alors, le vélo, en dessous d'une certaine taille, ce sera un jouet.
Ah, ce sera un jouet, ouais, c'était ça. Ouais,
voilà. Et en revanche, tous les autres vélos seront directement concernés par cette future loi, c'est-à-dire comment récupérer les produits, la collecte, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait, comment on recycle, comment on réutilise. Gros sujet sur le réemploi et la réutilisation dans cette loi.
Alors, justement... Comment le monde du sport et vous, quoi, le syndicat et les producteurs et distributeurs d'articles de sport apprécient la loi? Est-ce que ça inquiète? Est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce que...
Alors,
il y a eu un colloque, je crois, organisé par l'Union Sport et Cycle.
Oui, il y a eu un colloque le 1er octobre. Mais la question est vraiment intéressante parce que le sport et l'environnement, ça ne date pas d'hier. Il faut bien comprendre que les marques de sport, le commerce du sport, tous les acteurs du sport ont un terrain de jeu privilégié qui est la nature. Donc il serait complètement anormal et incompréhensible que les acteurs industriels se sentent étrangers à cette nécessité de préserver la planète et donc de travailler à la transition écologique.
Vu du consommateur, ça semble logique, effectivement.
Oui, mais pour les marques aussi, pour les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, la nature, c'est leur terrain de jeu. Hein.
Oui,
si jamais ça se dégrade, c'est aussi leur business, quelque part, hein, de manière un peu cynique, qui s'en verrait dégradé.
Oui, on en parlerait régulièrement dans Vivons Sport.
Donc, il y a une relation qui est déjà assez forte. Il y a beaucoup d'initiatives assez spontanées et sincères qui sont prises de part et d'autre. Il y a beaucoup d'entreprises engagées dans ce secteur-là, dans la lutte pour la préservation de la planète. Mais très objectivement entre nous, il y a quand même des degrés de maturité très différents entre les entreprises. Donc on a une vraie mise à niveau, on a un travail de pédagogie et puis d'explication sur tous les sujets que concerne la loi, parce que c'est une loi qui est quand même assez technique et qui nécessite un gros travail d'information pour les entreprises concernées.
Alors, il y a jusque quand, déjà, pour se mettre en conformité
Alors,
avec la loi?
Alors, la loi est votée. Maintenant, on va rentrer dans un temps réglementaire, hein, c'est-à-dire que les principes philosophiques de la loi sont entendus. Et maintenant, il faut écrire la règle du jeu.
C'est ça.
Ça passe par un décret ou par des décrets. Et là, ça va être un travail long parce que dans les règles du jeu, par exemple, Karine, on va devoir définir le périmètre.
Oui.
Quels sont les produits concernés? Est-ce qu'une chaise d'arbitre de tennis est concernée? Est-ce que tout le matériel de fitness est concerné? Les vélos, bien entendu. Mais vous voyez un petit
les
peu
l'envergure
des produits concernés. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ensuite, il y a d'autres sujets à discuter dans le cadre de cette loi. C'est la notion de reprise en magasin. Tu imagines que pour les magasins, compte tenu de la taille de certains magasins, tout accepter en retour, c'est impossible. Donc comment on fait? Est-ce que demain, on peut imaginer, et ça c'est un vrai sujet de déploiement de la loi, est-ce qu'on peut imaginer que les clubs sportifs deviennent des points de collecte? Donc autant de sujets et d'interrogations qu'il va falloir maintenant, auxquels il va falloir répondre au travers de la réglementation.
Donc il y a l'écriture de la réglementation, des décrets, et vous, quoi, à l'Union Sport et Cycle, et puis avec les adhérents, comment vous travaillez sur ces questions-là ?
Alors, je vais d'abord répondre à la question que tu m'avais posée, à laquelle je n'ai pas répondu. Normalement, cette loi est mise en application le 1er janvier 2022. Voilà. Oui. Alors, je dis normalement, mais ça se passera comme ça, parce qu'il y a une réelle volonté politique de mettre en place rapidement cette loi. Alors, comment on travaille, comment on avance ? On a constitué des groupes de travail en fonction des thématiques apportées. La thématique du périmétrage et des volumes concernés, hein, puisqu'on est en train de parler de volume, de tonnage. C'est les engagements qu'il faudra avoir vis-à-vis de l'État sur le sujet. Ensuite, il y a des sujets sur l'information aux consommateurs, parce qu'on va avoir affaire à des marques internationales avec des productions qui ne sont pas dans les pays concernés. Donc comment, pour des marques internationales...
Amazon ou comme ça, vous travaillez comment avec des...
Bah, en fait, c'est un travail
qui sont pas adhérents chez vous, finalement.
Ouais, avec les entités européennes, hein, c'est-à-dire sur les entités européennes, on fait des présentations de la loi pour qu'elles comprennent les enjeux.
D'accord.
Donc voilà, c'est tout un travail à la fois très technique, à la fois d'information et d'investigation.
Oui.
Parce que vu la diversité des produits, combien de mâts et de masques et de tubas on fabrique par an, combien de planches à voile on récupère dans les déchetteries. Voilà, c'est tout un travail d'investigation qu'il va falloir mener pour avoir avec précision le tonnage et le volume de produits à recycler ou à réemployer. Et à partir de là, on pourra définir une écotaxe qui permettra
de recyclage. Ça, on peut le confirmer, il y aura bien une taxe comme on l'a sur d'autres produits électroménager, etc.
Exactement, oui, Karine. En fait, c'est le principe un peu du pollueur-payeur, c'est-à-dire que l'entreprise qui met sur le marché se doit d'être attentive à la fin de vie des produits qu'elle met sur le marché.
D'accord. Est-ce qu'on aura plus de location, de prêts, de partage d'équipements ? Est-ce que ça, c'est des tendances qui vont se développer ? On y réfléchit ?
Incontestablement, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Quand je disais que cette loi elle va aussi mettre en exergue le réemploi et la réutilisation, réemploi, c'est quand on donne une deuxième vie au produit, donc là on est en plein dedans, hein, dans ce que tu disais. Et puis la réutilisation, c'est quand on réutilise un produit pour en faire autre chose, par exemple les voiles de bateau pour en faire des sacs de sport, ce genre de choses. Voilà. Donc effectivement, les acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, vont être mis à contribution. Mais pourquoi pas aussi les acteurs sportifs, hein, du mouvement sportif, ils peuvent être aussi des acteurs importants dans cette nouvelle donne. Donc tout ça est très ouvert et effectivement c'est à la fois excitant, à la fois inquiétant, mais c'est pour ça que je disais qu'on va vraiment vers un virage très important dans notre industrie.
On le disait, les consommateurs, ils sont sensibles. Est-ce que vous avez des études là-dessus ? Est-ce qu'on a analysé si les sportifs sont effectivement... plus intéressés par l'écologie que la moyenne de la population ?
Alors, très bon sujet, puisqu'on va engager une étude justement un peu plus précise là-dessus. Lorsqu'on analyse, en tout cas, les leviers ou les critères de choix des produits, hein, puisqu'on mène, nous, au sein de l'Union Sport et Cycle, régulièrement des études sur les marchés et les modes de consommation, on s'aperçoit que ce sujet de la transition écologique, la protection de l'environnement, est un sujet qui mobilise, et en particulier chez les plus jeunes. Mais en même temps, il y a un paradoxe. Alors déjà, les millénials, c'est encore plus la génération Z, sont bourrés de paradoxes.
Oui.
Ils sont sensibles à l'écologie, mais en même temps, ils n'hésitent pas à acheter un produit qui vient à l'autre bout de la planète s'il correspond à leurs besoins du moment. Donc ça est très paradoxal. Et en même temps, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir d'achat pour acheter des produits éco-conçus.
Oui.
Donc on est à un virage, mais... ce que l'on sait avec certitude, c'est que dans les années à venir, c'est un sujet qui va de plus en plus devenir, si ce n'est un critère de choix, en tout cas un critère de non-choix. Et donc, c'est déterminant pour les marques.
Alors, tu parlais des tendances des millennials. Est-ce que tu peux nous parler des tendances du marché, justement, en dehors de cet aspect écologique, quelles sont les tendances sur ce marché ? Sur le marché
Alors,
des articles
au
de
global,
sport.
Hein, sur le marché global, les tendances sont liées à la pratique, en fait. avec une pratique de plus en plus autonome, avec une diversification des pratiques et une hybridation des pratiques. Pourquoi diversification ? Parce qu'il y a de plus en plus d'offres de sport ou d'activité physique. Et hybridation, parce qu'avant on jouait au foot, maintenant on fait du foot à 5, on fait du futsal, on fait tout un tas de choses avec un ballon. Donc ça induit des nouveaux produits, ça induit des nouveaux modes de consommation avec l'émergence du digital, c'est-à-dire un croisement entre des magasins physiques et digitaux, une réflexion de plus en plus profonde sur l'expérience client en magasin, c'est vraiment un sujet.
Oui.
Et puis évidemment, l'autre tendance, c'est l'exploitation des data. Comment on est de plus en plus en relation directe avec son consommateur pour mieux identifier ses besoins du moment. Voilà un petit peu les tendances de marché que je pourrais exprimer pour faire très court.
Et le marché féminin, est-ce qu'il est maintenant arrivé à son niveau ou est-ce qu'il va augmenter?
Alors,
a priori
on en est loin, Karine. Il y a un gros potentiel
là-dessus.
C'est
pour ça que je pensais que c'était une tendance aussi. C'est pour ça que je posais la question.
Ouais, ouais. Mmh. Alors, c'est une tendance déjà depuis quelques années.
Ouais,
mais effectivement, ça s'inscrit dans la durée. On sait, enfin, en tout cas, on est beaucoup d'acteurs à considérer que la femme est l'avenir du sport, hein, tant sur la pratique que dans la consommation. Sur la consommation, aujourd'hui, la femme représente 35% du marché en textile et 30% du marché en chaussures, alors même que dans la pratique, c'est quasiment la parité. Donc mécaniquement, il y a un potentiel. Mécaniquement, il y a un gros potentiel. En revanche, ça nécessite, un, de mieux adapter les produits. On n'est pas obligé de faire des produits roses pour plaire aux femmes, voilà, caricaturé. Et ensuite, il faut revoir complètement la notion d'expérience client en magasin pour ce qui concerne les femmes. Il y a un gros travail à faire pour les séduire un peu plus.
Donc, ça fera partie des axes de travail, je suppose. Si on revient sur les questions environnementales, vous avez des EcoSport Awards qui récompensent vos meilleurs adhérents ou les innovants,
en fait, l'idée,
je ne sais pas.
On a commencé il y a 3 ans, donc on va dire qu'on était un peu précurseurs ou visionnaires. Mais en gros, sachant qu'il fallait guider vers cette transition écologique, notre volonté, c'était de mettre en valeur les bonnes pratiques. Parce que, comme je te le disais, en fait, il y a des vraies disparités de maturité d'une marque ou d'un distributeur à l'autre en ce qui concerne ce sujet de la transition écologique. Donc, l'idée des EcoSport Awards, c'était justement de mettre en valeur les bonnes pratiques et puis, effectivement, que ces pratiques soient partagées. Donc, on va probablement, à la fin de l'année 2020, organiser une nouvelle édition des EcoSport Awards et ce sera l'occasion de mesurer un peu le chemin parcouru par les marques.
Alors, autre événement, parce qu'on aime bien aussi parler des questions sociétales, vous avez le Sport Job Day, c'est ça ?
Oui,
une sorte de salon
exactement.
De l'emploi ou alors, je te laisse expliquer.
Oui, c'est un peu ça, hein. Ça sera le 14 mai, si je ne dis pas de bêtises.
Donc ça, c'est important pour nos auditeurs, ça se passe où ?
Voilà, le 14 ou le 13 mai, je vais vérifier immédiatement.
Il faudra vérifier.
Ça sera au Stade Jean-Bois. En fait,
donc,
là
c'est
aussi,
bien à Paris.
C'est important de... Exactement, à Paris. C'est important d'expliquer aux jeunes, même aux moins jeunes, hein, il y a beaucoup de gens qui sont soit en orientation ou en reconversion, à quel point finalement le sport peut être une source d'emploi extraordinaire et un vrai secteur économique d'avenir. Donc l'idée, c'est de présenter la diversité des métiers. L'an dernier, on avait plus de 600 postes à pourvoir. En CDI, en CDD, en alternance. Donc, tu vois, c'est vraiment un job dating où
donc,
il y a de la matière.
C'est important pour nos auditeurs.
Exactement. Donc, c'est le 13 mai. Voilà, je viens de vérifier. C'est le 13 mai.
Au Stade Jean-Bois,
au Stade Jean-Bois à Paris. Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres événements annoncés tant qu'on y est
On aura une journée le 19 mai en province. Ça sera à Montpellier.
Très bien.
Ça sera une journée dédiée au tourisme. Ça va s'appeler Sport in France parce que on est convaincu que le sport est aussi un objet d'attractivité pour les territoires, notamment au travers des événements, mais pas que, aussi des lieux de pratique, du tourisme itinérant, notamment grâce au vélo. Et il y a des vrais sujets de développement aussi, à la fois de la pratique et à la fois de l'industrie, sous cet angle tourisme sportif.
Très bien. Alors, voilà. dernière question, parce qu'actuellement, on ne peut pas y échapper. Est-ce que vous sentez déjà l'effet coronavirus? Est-ce que là-dessus, il y a un groupe qui travaille sur les aspects économiques, peut-être?
Alors,
sur d'autres?
On suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe, et notamment les évolutions sur le reste de l'Europe, et je pense bien entendu en Italie. Il est évident que l'arrivée des produits, des matières premières venant de Chine pose d'ores et déjà un problème pour le secteur industriel. On n'a pas pris de mesures particulières encore à ce jour, mais on regarde ça avec beaucoup d'attention.
Oh, très bien. Alors, avant de te laisser, Virgile, tu as fait un choix musical que nous allons mettre en pause musicale. Est-ce que tu peux nous dire lequel c'est et nous l'expliquer?
Alors, c'est un peu un petit clin d'œil, mais c'est une musique que j'aime bien écouter quand je cours. Je fais pas mal de sport, mais parfois je suis un petit peu moins bien, et donc voilà, j'ai besoin de ça, ça me donne du courage, justement, figure-toi.
Et donc il s'agit du courage de la grande Sophie, hein. Voilà, on te remercie, Virgile.
Merci,
à bientôt.
Beaucoup, Karine.
Au revoir.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse, où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. C'est tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse, où je pourrais trouver du courage, du courage. Que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose sans cesse, où je pourrais trouver du courage.
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission est sur les enjeux de développement durable pour les articles et le matériel de sport. Nous sommes toujours en studio avec Sophie Ferringer, fondatrice de Lincoln Sport. Déjà, je le prononce bien, Sophie ?
Parfaitement.
Alors maintenant que j'ai su le prononcer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Oui. Alors, Lincoln Sport, c'est une plateforme spécialisée dans le matériel de sport 100% d'occasion, toute catégorie de sport, pour les professionnels et pour les particuliers.
Alors, comment t'es venue l'idée de faire
Alors,
cette start-up, l'idée... c'est ça, c'est une start-up,
oui. Je suppose. L'idée m'est venue parce que j'aime beaucoup la nature et la montagne. Et le sport, évidemment. Et je cherchais une paire de skis d'occasion. Et habitant la région parisienne, toutes les paires que je repérais, elles étaient proches des montagnes. Et du coup, quelques mois plus tard, toujours à la montagne, mais en randonnée cette fois-ci, après une très belle rando, le déclic est arrivé et je me suis dit, mais ce serait quand même formidable s'il existait une plateforme spécialisée dans le matériel de sport d'occasion.
D'accord. Donc, ça veut dire que ça n'existait pas ?
Alors, il y a plein de choses qui existent, des plateformes spécialisées dans une catégorie de sport. Il existe aussi des choses avec moitié de l'occasion, moitié du neuf, mais avec beaucoup de neuf et qui met peu en avant les produits d'occasion. Et surtout, ce qui n'existe pas vraiment, c'est une plateforme avec du matériel tout confondu, mais avec des services de transport adaptés pour du matériel lourd et volumineux, avec un paiement sécurisé tant pour le vendeur que pour l'acheteur.
Matériel lourd, ça peut être du matériel de fitness.
Exactement. Par exemple, une machine de muscu qui pèse 500 kilos, on est capable d'aller la chercher chez le vendeur et de l'envoyer chez l'acheteur.
Est-ce que vous travaillez sur l'aspect technique des choses ou comment se renseigne en fait le vendeur, comment l'acheteur annonce ses...
Alors,
ses annonces, quoi.
Oui, oui. Un vendeur, qu'il soit professionnel ou particulier, crée son compte et puis après va créer son annonce. Et derrière, nous, chez Lincoln Sport, on joue un vrai rôle de modération où on va vérifier la cohérence de l'annonce, tant sur le visuel que sur le contenu. Et si on n'a pas suffisamment d'informations ou si le matériel n'est pas suffisamment mis en valeur ou pas cohérent avec le descriptif, on va contacter le vendeur, tant par téléphone que par mail, pour qu'il nous apporte un maximum d'informations et qu'on puisse valoriser vraiment cette annonce, tant dans le visuel que dans le contenu. Et ensuite, derrière, on valide l'annonce ou pas, parce qu'il arrive aussi que des fois, on ne valide pas une annonce et elle est mise sur le site.
Alors nous, on est sur une émission sur le développement durable. S'il y a des livraisons d'un bout de la France à l'autre, c'est pas terrible, suppose, en impact carbone notamment.
Ouais.
Est-ce que l'acheteur peut voir si son vendeur est dans le coin, peut aller rencontrer son vendeur éventuellement ?
Comment ça se fait ? La première chose qu'on peut effectivement activer, et d'ailleurs il y a des vendeurs qui ne souhaitent pas activer de transport, on a la possibilité de le retirer sur place et justement on a des filtres pour justement chercher un matériel vraiment dans la proximité où on se trouve.
Donc on a parlé dans cette émission non seulement développement durable, mais plus précisément de la loi d'économie circulaire, anti-gaspillage et économie circulaire. Finalement, donc, tout le monde va être, on l'a vu, plus ou moins obligé, pour ceux qui ne le faisaient pas, de s'intéresser plus à l'occasion, à la seconde main. Est-ce que tu y vois une opportunité ou est-ce que c'est une concurrence et que c'est un problème ?
Alors, j'y vois une vraie opportunité. parce que justement Linken Sport s'inscrit parfaitement dans l'objectif de la loi avec justement l'objectif de faciliter le réemploi du matériel.
Donc, toi, tu n'auras pas de mal à t'adapter
Ah, pas du tout. Et puis, moi, mon objectif premier quand j'ai créé ça, c'était vraiment justement de favoriser justement le réemploi pour justement que les pratiquants puissent accéder à du matériel facilement et surtout à moindre coût.
Alors, on avait reçu il y a presque 2 ans Marc Bultez qui s'occupe de la recyclerie sportive. Est-ce que justement dans l'économie sociale et solidaire vous êtes un certain nombre à vous regrouper, à faire du lobbying aussi pour que ces choses avancent? Comment ça se passe?
Alors on s'est rencontrés, j'ai rencontré leur équipe récemment et là tout dernièrement j'ai rencontré aussi une autre recyclerie. Moi l'objectif c'est aussi de créer des partenariats avec justement des partenaires qui vont dans ce sens-là parce que plus on sera nombreux je dirais à œuvrer pour justement favoriser le réemploi du matériel, bah c'est quelque part participer aussi un petit peu à notre manière pour améliorer les choses et préserver notre belle planète.
Donc, toi, tu es plus sur le marché de l'occasion. Mmh. Est-ce que la location, ça pourrait être un secteur sur lequel vous pourriez aller ou plutôt avoir des partenariats où chacun son domaine
Alors, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question. La location, pour l'instant, bon, nous, en tout cas, on se concentre sur notre activité première. Mmh. Mais après, pourquoi pas créer des partenaires qui, justement, œuvrent aussi dans la location. Ça, on est assez ouvert.
On parlait des distances. Tu me disais que tu avais envie, quand la structure va grossir, de favoriser notamment le télétravail et d'autres domaines, quoi, d'autres façons de travailler pour réduire consommations.
Ouais.
Alors, tu peux expliquer.
Oui. L'objectif de Linken Sport, c'est aussi quand on va commencer à grossir, de bien évidemment embaucher du personnel, mais surtout des personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi. Donc, ça peut être des personnes qui sont en reconversion, des personnes en situation d'handicap. Et surtout, l'objectif,
c'est... Là, on est plus sur une question sociétale, mais très importante.
Ouais. Et derrière ça aussi, c'est de favoriser le télétravail pour justement éviter justement tous les déplacements tous les jours. Et surtout, moi, j'ai déjà managé du personnel en télétravail. Et quand on définit les missions de nos collaborateurs, finalement, on s'aperçoit qu'on peut facilement travailler régulièrement en télétravail.
Et donc diminuer les déplacements, c'est
tout ça? Tout à fait, diminuer les déplacements.
Et toucher des publics, tu le disais, éloignés de l'emploi plus
exactement,
facilement.
Exactement.
D'accord. Donc justement, on parlait handicap. Est-ce qu'on peut déjà trouver sur la plateforme du matériel pour les personnes en situation de handicap? J'en parle parce que on va bientôt faire un cycle sur, sur le sport, le handisport notamment, et le sport adapté.
Alors, j'aimerais beaucoup, sauf que bon, nous, la plateforme, elle a un an d'existence. Ouais. Et je suis justement sur des démarches pour essayer aussi d'intégrer une catégorie pour tout le matériel de sport lié à l'handicap. Ça, ce serait vraiment quelque chose que j'ai à cœur et j'aimerais vraiment intégrer sur la plateforme.
Là, tu parlais de partenariat, justement, il y a à la fois des particuliers qui vendent. Et vous cherchez ou vous êtes en partenariat avec des marques? Comment ça se passe?
Alors, effectivement, je suis en démarche auprès de marques et de aussi, par exemple, des clubs de fitness. Ça peut être des magasins de location de matériel ou même directement des fabricants de machines. Donc, pour l'instant, on n'a pas signé encore de partenariat, mais on a des démarches en cours.
Et vous êtes en relation avec le mouvement sportif, les associations sportives, comment ça se passe du côté vendeur ou acheteur, hein,
Alors les deux, on a des associations sportives qui sont demandeurs pour effectivement mettre du matériel sur notre plateforme, et à l'inverse, on a aussi des associations qui nous appellent, qui cherchent à investir dans du matériel d'occasion de qualité, bien évidemment avec un tarif intéressant pour renouveler leur parc ou pour justement s'équiper parce qu'il leur manque telle ou telle machine. Et on a également aussi des entreprises qui commencent à nous contacter pour aménager leur salle de sport pour leurs salariés.
Alors, tu as beaucoup parlé, et je le comprends, de tarifs, ouais. Mais je posais la question à Virgile. Est-ce que finalement, la question du prix est la seule raison, ou est-ce que les sportifs, les associations sportives, les salles de fitness, etc., ont aussi envie maintenant, sont intéressés par l'économie circulaire, réfléchissent au développement durable? Est-ce que tu sens des motivations par rapport à...
Oui, effectivement, y a le prix qui rentre en compte, mais je me rends compte au fur et à mesure des échanges que de plus en plus, même de sociétés, hein, sont attirées par des plateformes comme LinkedIn Sport du fait qu'on participe à l'économie sociale et solidaire, et surtout eux-mêmes participent, et c'est quelque chose qui est important pour eux, notamment aussi toutes les personnes qui sont en charge du RSE, ils viennent vers nous aussi par cette démarche-là.
Et le sport en entreprise, vous le voyez se développer aussi, parce que pour que les entreprises viennent, alors oui. Il y a les salles de fitness, mais il y a aussi les entreprises qui peuvent être s'équipent.
Oui, alors les entreprises, on a des PME par exemple qui font la démarche aussi du fait que leurs salariés demandent une salle pour pratiquer du sport, et effectivement nous trouvent à travers notre plateforme du fait que on propose du matériel d'occasion, mais aussi parce que on leur propose un service pour leur livrer leur matériel.
Alors, on a beaucoup parlé de la France, que ce soit pour les employés, les vendeurs, les acheteurs, mais quand on est sur Internet, c'est difficile d'avoir des limites de frontières. Est-ce que vous avez une réflexion justement
tout à fait.
Pour s'éloigner un peu de la France?
Alors on a l'ambition, pour l'instant l'idée c'est de se développer sur l'ensemble du territoire français, mais je suis très attentive aussi sur un développement dans un premier temps vers l'Europe. Et quand j'ai fait mon étude de marché et que j'ai interviewé beaucoup de personnes dans le milieu sportif, on m'a tout de suite effectivement conseillé de regarder aussi vers l'Europe et d'autres pays. Donc oui, on a l'ambition d'aller vers l'international.
Parce qu'il y a des pays francophones notamment, mais autres en Afrique qui ont l'habitude de la seconde main finalement.
Exactement.
Est-ce que ceux-là peuvent être intéressés, ou est-ce que c'est trop compliqué?
Non, c'est un objectif aussi. Effectivement, ça faisait partie de mon étude et je l'avais déjà mentionné avant même d'immatriculer l'entreprise. Effectivement, c'est un développement vers des pays africains. Ça peut être envisageable aussi.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? C'est déjà beaucoup.
Oui,
je ne sais pas.
Alors, un de nos objectifs actuels, c'est aussi de trouver un ou une ambassadrice, ou les deux d'ailleurs, sportive, qui...
C'est-à-dire que ça doit être une femme, c'est ça ?
Comment ?
Ambassadrice sportive, c'est quoi ? C'est une sportive ?
Oui, c'est une sportive qui puisse nous soutenir sur le lancement de LinkedIn Sport.
C'est une annonce pour vos auditrices sportives.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Là, on a fait le tour des objectifs de l'entreprise qui sont ambitieux.
Ouais.
Très bien. Alors, avant de passer à la suite, on va passer à ta pause musicale. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle musique il s'agit, ouais, et pourquoi ce choix ?
Alors, j'ai choisi The Jayhawks, It's Up to You, parce que c'est une musique qui m'apporte beaucoup d'énergie. Donc, j'ai pas pris une chanson que j'aurais pu prendre aussi quand je fais du sport, mais j'ai voulu prendre cette chanson parce que ça m'apporte beaucoup d'énergie positive.
On voit que nos invités aujourd'hui cherchent de l'énergie dans la musique. Alors on écoute It's Up to You de The Jayhawks.
Heard you bragging about the boys you took. Are you a victim or a small-time crook? Or just a little fool? You know it's up to you. You know, princess, you're a prima donna. Can't understand why the world wasn't handed to you. You know it's up to you. When you're deep inside your head, justify the blame. Six green olives and a champagne basket. Pay the bill with your boyfriend's plastic. What a little fool. Takes one to get to two. With a silver spoon, tell me, honey, who is possessing who? You know it's up to you. You know it's up to you. Thank you.
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission est sur les enjeux de développement durable pour les articles de sport. Nous sommes toujours en studio avec Sophie Ferringer, fondatrice de Lincoln Sport. Et nous sommes au téléphone avec notre chroniqueur habituel Frédéric Hamelin. Bonjour Frédéric.
Bonjour Karine, bonjour à vous.
Tu nous entends bien? Tout va bien?
Oui, je vous entends bien, oui.
Eh bien écoute, on te donne le micro, la parole pour la lecture de ta chronique.
Avec plaisir. Alors si vous dites à un représentant du monde sportif, essentiellement les gens de terrain, qu'il vous faut la norme DD, vous allez être accueilli les bras grands ouverts avec un immense sourire. Pensez donc, la norme Didier Deschamps, celle de l'entraîneur qui gagne. Dans un domaine où le seul résultat est au-dessus de tout, il est sûr que ça serait un sacré gage de réussite. Mais quand vous expliquez qu'il s'agit en fait de développement durable, les visages se font plus interrogatifs, circonspects, voire indifférents même. Et comme on dit, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Tout ça, c'est du vécu. Peut-être en petit comité, mais quand j'ai lancé le sujet auprès d'une dizaine de sportives et sportifs, pour voir si c'était quelque chose qui leur parlait, ce sont les seules émotions qui sont apparues. Et encore, je ne leur ai pas parlé du NFHQE. Là, à une période où le coronavirus sème la panique, je crois que j'aurais surtout vu la peur dans leurs yeux. Pourtant, il est question de haute qualité environnementale. Et plutôt que de traiter à flux continu sur les pérégrinations nocturnes et états d'âme de Neymar, il serait bon que les médias sportifs s'emparent largement du sujet et passent à la vitesse supérieure. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'on constate, c'est le manque d'informations, mais aussi de clarté dans des propos souvent inaccessibles pour des non-spécialistes et d'implication de certains, sportifs et hauts dirigeants du sport, pour en faire un sujet majeur aujourd'hui, comme cela devrait être le cas sur une planète qui suffoque. Il est vrai qu'on n'est pas vraiment aidé pour militer pour le DD, quand on nous montre de la neige livrée par hélicoptère pour permettre à une station de ski des Pyrénées de fonctionner, qu'on voit des joueurs de tennis suffoqués en Australie, touchés par des incendies hors normes, mais que seul importe que l'Australian Open ait lieu, que la prochaine Coupe du Monde de foot va se jouer dans des stades totalement climatisés, dévoreurs d'énergie. Alors on peut évoquer le concept de stade réutilisable, l'objectif environnemental prioritaire pour Paris 2024, si tout le monde ne va pas dans la même direction, qu'il n'existe pas de cohérence, et ce, quelles que soient les raisons, ce combat essentiel pour la planète va être très difficile à mener et à gagner. En lisant des articles sur le DD, j'ai aimé cette phrase. Le développement durable n'est pas une chose à faire en plus, c'est un socle à partir duquel doit être pensé tout projet. Mais j'ai vite été ramené à la réalité, du moins une certaine réalité, quand des élus ont alors évoqué des coûts conséquents difficiles à supporter face au taux d'endettement de bon nombre de villes en France. Loin des lumières olympiques parisiennes, l'idée est plutôt aujourd'hui de faire avec ce qu'on a, du pas cher, de rafistoler, plutôt que de faire du neuf écologique. Comme dit un proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. En clair, d'une manière générale, le DD serait plutôt perçu aujourd'hui comme une dépense supplémentaire et non un investissement. Si bien qu'à ce jour, quand le NFHQE devrait être obligatoire, on ne comptait encore récemment qu'une trentaine d'infrastructures estampillées ainsi sur l'ensemble du territoire national. Alors pour tenter de changer un peu les choses, voici l'exemple du Forest Green Rovers Football Club, club de Ligue 2 anglaise, la D4 là-bas, désigné en 2018 par la CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et oui, club le plus écologique de la planète. Au menu, amendement du terrain d'honneur avec matière organique, coupe de la pelouse avec tondeuse électrique à énergie solaire, arrosage avec eau de récupération, vente de nourriture et boissons sur le principe du végétalisme intégral. Bon, il faut dire que le président et propriétaire, Dale Vince, n'est autre que fondateur d'Ecotricity, une société spécialisée dans l'énergie verte. C'est sûr, ça aide. Mais si ça peut aussi inspirer certains des teasers, c'est cadeau. Et ça, dans un pays où la population consacre près de 16,4 milliards d'euros, dont 6,4 pour les articles vêtements et chaussures de sport, et 7,6 milliards pour les services, ce n'est peut-être pas inutile, non ?
Merci Fred. On s'aperçoit qu'il y a autant d'acronymes dans le développement durable qu'il y en a dans le sport, mais tu les as tous
voilà.
Explicités. Alors espérons qu'ils ne feront pas peur. Alors nous, on a déjà parlé en plus de la LEC, la loi anti-gaspillage et d'économie circulaire, dans l'émission, et on en reparlera. Hein. C'est vrai que tu dis que les médias sportifs n'en parlent pas beaucoup, mais nous... Le développement durable, on essaye sur la chaîne d'en parler. Hein.
Bien sûr.
On est bien d'accord, c'est qu'il faut expliquer. Ouais. On ne l'a jamais fait avec Didier Deschamps, on n'y a jamais pensé, mais on le fera. Toi, tu sens quand même que... Alors, tu dis que quand tu en as parlé autour de toi, c'est pas si simple. Justement, on a des invités qui nous disent aussi quand même que les sportifs ont l'air quand même de s'intéresser plus et les associations sportives à ces questions-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? On est prêt ou on n'est pas prêt? Alors,
il y a des actions, effectivement. Quand on voit, je crois que c'est Nicolas Karabatic qui a par exemple lancé quelque chose où on ne doit plus manger de viande, des choses comme ça. Il y a des petites choses, ça frissonne un petit peu, mais il n'y a pas une prise en compte massive de ce problème. Moi, je trouve ça assez incroyable. Quand on parle autour de nous, les gens ne savent absolument pas ce que c'est, ils en ont absolument pas conscience. Je vois sur une ville par exemple comme Boulogne-Billancourt, quand on parle avec les gens, bon, déjà trouver un espace pour faire du sport, c'est compliqué. Les gamins sont obligés d'aller du côté de Meudon ou de Vaucresson. Enfin voilà, ne serait-ce déjà que des constructions d'infrastructures sportives, ça semble compliqué. Mais alors en plus avec des normes et la prise en compte de normes environnementales, c'est vraiment là, les gens sont loin de tout ça, véritablement.
On a vu, en tout cas ils sont venus le dire à l'antenne, que la Solideo, dont je rappelle que c'est la société de livraison des ouvrages olympiques, travaillait sur ces questions-là, en tout cas s'y est engagée. Et puis on a parlé aussi à l'antenne il y a 2 ans de la charte WWF ministère des sports, où les équipements prennent des engagements. Est-ce que au moins à Paris 2024, qui va être aussi labellisé ministère des Sports et WWF, ça doit permettre d'entraîner. Est-ce qu'on y crois?
C'est à souhaiter, parce que heureusement qu'il y a ça, mais quand on connaît aussi la réalité dans certaines villes, la réalité économique de certaines villes, ce sont des freins à tout ça. On pense pas forcément au plus long terme, on va penser au court terme, on va penser aux économies et on va pas penser à tout ça, malheureusement.
Ouais, alors
il faudrait aller encore plus loin. C'est très bien et heureusement que Paris 2024 s'engage dessus. Mais voilà, il va falloir attendre de toute façon pour obtenir des résultats, je pense.
Alors ça, c'est les infrastructures, et effectivement, on s'inquiète. Autant Paris 2024 que les normes sur les infrastructures inquiètent les administrés à cause de la fiscalité. Maintenant, la loi anti-gaspillage et d'économie circulaire qui favorise la seconde main, on en a parlé tout à l'heure, le partage, la location. Est-ce que les consommateurs sont prêts à y adhérer? Virgile disait, chez les jeunes, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en même temps, ils sont développement durable, mais ils veulent la dernière marque.
C'est exactement ça. C'est le problème. C'est toute l'économie de cette société. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans cette consommation, ce côté modèle, image, fashion et tout ça. Et puis de l'autre, on sait qu'il ne faut pas et qu'il faudrait être justement dans une économie durable et différente. C'est toute la difficulté aujourd'hui. Mais ça, tu vois, moi, je suis beaucoup moins inquiet pour les jeunes, parce que je pense que c'est aussi une question de compréhension, d'éducation. Et si on transmet les bons messages, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Les jeunes sont suffisamment intelligents pour comprendre ces choses-là. Maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué de passer d'un système, d'une société où on est justement dans une consommation à outrance et de nouveaux produits en permanence, à quelque chose où il va falloir réfléchir. Et voilà. Mais je pense qu'ils ont, si on transmet les bonnes choses, les bons messages, ils ont conscience de tout ça. Et ils changeront, ils évolueront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
C'est donc bien une question de pédagogie.
Mais il faut que le message soit bon et que les adultes soient exemplaires en circonstance. C'est difficile aujourd'hui de parler de stade, de développement durable, etc. Quand tu vois que la Coupe du Monde va se jouer en plein mois de novembre, parce que déjà il va faire 40 degrés à une autre période.
On parle de la Coupe du Monde de foot au Qatar. On parle de la Coupe du Monde de foot au Qatar.
Oui, tout à fait. C'est quand même insensé. Déjà, on a vu les championnats du monde d'athlétisme au Qatar, ce que ça a provoqué.
Une catastrophe. Enfin,
C'est inimaginable, quoi, voilà, d'en arriver là et de dire derrière, ben non, mais il faut faire des efforts pour la planète. À côté de ça, on construit des stades on construit une dizaine de stades, et tous avec la climatisation, etc. Donc, la FIFA, ça regroupe quand même pas mal de monde.
Ça, c'est la Fédération internationale de football, je rappelle.
Je pense qu'il y a quand même à avoir un rôle d'exemplarité par rapport à tout ça. Donc, on va nous tenir des discours, oui, mais, mais enfin, la réalité, la vérité, elle est là. Et puis, les gens, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, c'est ça aussi.
C'est comme pour Internet. Le développement durable ne s'arrête pas à nos Pardon, je disais, c'est comme pour Internet, le développement durable ne s'arrête pas à nos frontières, et donc c'est bien aussi un problème on l'a vu tout à l'heure, économique, mais c'est aussi un problème géopolitique.
Bien sûr, bien sûr. C'est, pour moi, c'est évident, oui.
Sophie, on parlait justement, oui. Est-ce que les jeunes ou adultes sont sensibles au marché d'occasion, toi qui as cette plateforme, est-ce que tu vois des profils plus particuliers, hommes, femmes, âge,
intéressés par l'achat ? Effectivement, moi quand j'ai démarré et au regard de tout ce que j'avais pu étudier, je ressortais effectivement les jeunes qui étaient beaucoup plus sensibles sur tous ces sujets-là. Et moi, où je suis très surprise, c'est que j'ai quand même beaucoup de personnes qui se connectent sur ma plateforme qui ne sont pas que des jeunes et qui, quand je les contacte pour X raisons, trouvent que effectivement ce type de démarche et de concept, il me parle systématiquement de que ça œuvre aussi pour participer un petit peu pour préserver la planète. Donc on parle de questions d'environnement en tout cas. Donc je dis pas que il y a que les jeunes qui s'y intéressent, parce que au regard des échanges que je peux avoir, je trouve que j'ai quand même une majorité de personnes de tout âge et de tout profil qui s'y intéresse.
Donc, il va falloir faire croître ce marché-là. La loi va obliger chacun aussi à se positionner.
Après, effectivement, je rejoins. On a tous des efforts à faire pour améliorer les choses, parce qu'on est dans des consommations et des habitudes qui font que des fois, on peut, je pense, améliorer encore plus les choses. Et comme je te le disais, je pense que la France, on a des marges de progression même plus importantes que d'autres pays européens.
Donc, de ce que je retiens de vous deux, c'est que de la pédagogie, de l'éducation, il faut en faire et qu'il faudra, je crois qu'on en est à notre quatrième cycle, spécifiquement sur cette thématique, même si on en parle dans chacune des émissions, mais on continuera à parler développement durable sur dans cette émission. Quelque chose à ajouter, Fred, ou on a fait le tour ?
Non, bah écoute, moi je...
De toute façon,
il faut que les consciences s'éveillent à tout ça et qu'on bouge. Quand je citais tout à l'heure le stade anglais de 4e division, ça doit être un exemple pour beaucoup, qu'on réfléchisse effectivement de cette manière-là aujourd'hui. Et c'est essentiel, voilà.
Donc, il faut continuer à valoriser les bonnes initiatives et à faire de la pédagogie. En tout cas, merci à toi pour ta chronique et tes commentaires.
Merci à vous.
Merci à nos deux invités, Virgile Caillet et Sophie Ferringer. Merci à Mélanie Branco qui m'a aidé à préparer cette émission. La semaine prochaine, nous continuerons notre cycle sur articles de sport et développement durable. Nous recevrons une autre entreprise et une autre institution. Côté entreprise, ce sera un leader international, Décathlon, et nous échangerons avec un représentant de la mission sport et développement durable du ministère des Sports. Nous parlerons des enjeux de développement durable, environnementaux et sociétaux pour les entreprises, mais également pour le mouvement sportif. Vous aussi, adressez-nous vos idées, annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter ou Instagram, Karine Bloch. Très bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Et Lorenzo qui accélère, Lorenzo qui termine, Lorenzo est champion du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Sport has the power to change the world. It has the power to unite people.